à tous, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue à la table des dialogues aujourd'hui pour une émission consacrée à la cuisine. Bienvenue à notre invité, Thomas Chisholm. Bonjour.
Bonjour, merci.
Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui avec Isabelle Raviolo, qui Bonjour. Porte bien son nom. Bonjour Isabelle.
Bonjour à tous, chers auditeurs. Bonjour Christine.
Cette émission, donc, samedi 18 novembre, prend place dans le festival Paris local Les Mains ont la parole. C'est un festival qui se déroule du 15 au 18 novembre à Paris, comme vous le savez, chers auditeurs, et qui met à l'honneur les artisans du 11e arrondissement. Alors Thomas Chisholm nous vient de l'arrondissement voisin, puisque son restaurant Le Chocho est dans le 10e arrondissement rue de Paradis. Et c'est donc une très très grande joie de vous accueillir Thomas et de résoudre avec vous cette question très complexe. Manger est-il un acte naturel ? Alors, je vous présente Thomas, oui. On écoutera ensuite des jeunes apprentis, un jeune apprenti de 14 ans et un apprenti de 17 ans qui est en stage chez vous. Et puis, vous nous parlerez de votre travail. Vous rebondirez certainement sur ce qu'ont dit ces jeunes, de ce qu'ils attendent de la cuisine. Donc Thomas, vous êtes chef cuisinier du Chocho à Paris. Vous êtes né à New York.
Exactement, oui.
Vous êtes donc franco-américain et catalan.
C'est ça, c'est un grand mélange.
On peut affirmer que vous êtes aussi catalan. Vous avez été révélé aux yeux du grand public en participant à la saison 12 de Top Chef. Vous avez ouvert le Chocho en quelle année ?
En novembre 2021.
En novembre 2021.
On va bientôt souffler la deuxième bougie.
Ouais. Ça sera quel moment l'anniversaire ?
Le 10 novembre.
Bientôt donc, oui. Oui, tout à fait. Un restaurant, donc votre restaurant qui ne désemplit pas et qui emploie à plein temps combien de personnes ?
18 actuellement.
Et combien de nationalités ?
Ouf, au moins 5.
Bien, merci. Alors, parmi vos créations, une magnifique création, le plat à saucer, dont on va parler un peu longuement, car je l'ai testé et il est magnifique, chers auditeurs. C'est une gourmandise qui évolue selon la saison et qui est digne du plat communautaire que l'on trouve au Moyen-Orient, dans lequel chacun trempe son pain, son légume. Vous nous expliquerez, Thomas. Avec vous, on va tâcher de réfuter un préjugé très tenace hein, qui assimile la cuisine au seul plaisir des sens et à la flatterie, à un plaisir purement corporel et vil, qui serait bien en deçà du soin que l'on porte au corps par la médecine notamment. C'est une critique, n'est-ce pas Isabelle, que Platon porte à la cuisine dans le Gorgias.
Oui.
Et donc, on va s'attacher à montrer qu'il y a bien une éthique du manger et du boire, qu'il y a bien une façon d'être bon vivant avec vous, Thomas Chisholm, et à s'attacher à une transformation des aliments, à une invention, à une créativité et à une impro. Alors, on écoute les jeunes et vous interpréterez un petit peu ce qu'ils nous disent ou ce qu'ils vous disent.
Ça marche.
Grande chance de rencontrer deux jeunes apprentis cuisiniers, Noam et Anatole. On va vous demander de vous présenter et d'expliquer aux auditeurs d'Aligre FM pourquoi vous avez choisi la cuisine. À vous, Noam.
Bonjour, je me présente, je m'appelle Noam Cohen, j'ai 15 ans. Mon école c'est Ferrandi Paris. J'ai décidé de faire une formation bac pro cuisine pendant 3 ans. Je suis en première année. Alors ma formation elle consiste à faire 2 semaines école et 2 semaines dans mon entreprise. Donc je suis un salarié. J'ai un salaire en fin de mois Et j'ai 5 semaines de vacances dans une année. Alors l'endroit où je travaille, ça s'appelle l'hôtel de Poulpry des Maisons Polytechniciens. C'est un lieu où on peut y faire des mariages ou bien des petites réunions de travail, etc. Ils préparent aussi des plats pour le traiteur. Et il y a aussi un restaurant qui s'appelle le Poulpry, là où je travaille majoritairement. Et là où j'apprends aussi la cuisine. Alors pour moi, la cuisine en 7 mots, c'est expérience, créativité, plaisir, passion, physique, volonté, apprentissage, entrée, plat et dessert. Alors, quand est-ce que j'ai décidé de me lancer en cuisine? C'était en cinquième. C'était pendant le confinement. Je m'étais mis à cuisiner pendant un certain temps et j'ai adoré. Je cuisinais seul, grâce à mon portable et parfois ma mère m'aidait.
Et vous cuisiniez pour la famille?
Oui, ça arrivait, oui. Alors, ma recette préférée, je n'en ai pas. Mes rêves, c'est d'ouvrir mon restaurant.
Restaurant à Paris ou un restaurant ailleurs?
Je sais pas encore. J'ai aucune idée de quel thème sera le restaurant, où est-ce qu'il sera placé. J'ai pas encore d'idée. Et mes peurs, c'est de ne pas ouvrir mon restaurant. Voilà.
Merci beaucoup Noam. À vous Anatole.
Alors moi, je m'appelle Anatole Bessy. Je suis au lycée hôtelier à Biarritz en troisième année de bac pro, comme Noam. Juste que Noam, il est en apprentissage et moi, je suis juste en bac pro classique, donc avec des stages de 2 mois chaque année. Je suis en dernière année, donc j'ai réalisé tous mes stages. Et actuellement, je suis en stage au Chauchot à Paris, dans le 10e arrondissement. Pour moi, la cuisine, en 7 mots, c'est la passion, la volonté, le partage, la gourmandise, l'esthétisme, le hard work et la bière aux fins de service. Ensuite, quand j'ai décidé de me lancer dans la cuisine, en fait, quand ma sœur est partie de la maison, elle faisait tout le temps des gâteaux. Donc, j'ai commencé par, quand elle est partie de la maison, par faire des gâteaux. Ensuite, en troisième, j'étais pas vraiment fait pour l'école et donc, je me suis dit que c'était mieux que j'aille dans quelque chose où je puisse vraiment bouger, m'exprimer, faire ce que j'aime.
Alors, Thomas Chisolme, est-ce que ces voix d'enfant résonnent en vous? Est-ce qu'elles vous rappellent quelque chose dans votre propre itinéraire ou est-ce que c'est très lointain de ce que vous avez vécu à votre arrivée en France après 14 ans à New York, si je ne me trompe pas?
Non, pas du tout. Ça me fait beaucoup penser à ma jeunesse. Ça fait plaisir de voir qu'on a encore des jeunes motivés qui ont cette envie de faire un métier qui n'est pas si évident que ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien au métier d'entendre ces voix.
Bien, alors est-ce que vous pourriez nous raconter précisément votre itinéraire depuis votre naissance à New York, le moment peut-être où vous avez commencé à cuisiner vous aussi, et ce qui vous a déterminé peut-être votre rêve vous aussi et ce en quoi vous l'avez réalisé?
Ouais, écoutez, alors moi je suis né à New York en 1991 de parents français. Donc j'ai vécu aux États-Unis jusqu'à l'âge de 13 ans où voilà, j'ai vraiment vécu avec de la malbouffe, une mentalité assez différente de celle qu'on a en France. Voilà, je suis arrivé donc à Perpignan à l'âge de 13 ans et demi. J'avais une dernière année à faire au collège. Et pour moi, la scolarité n'était pas quelque chose de très évident. Je ne savais ni lire ni écrire le français. Donc, c'est quelque chose qui m'a poussé vers une voie un petit peu plus manuelle. C'est vrai que je dis souvent que j'ai fini cuisinier comme j'aurais pu être charpentier ou électricien. Voilà, c'était vraiment... c'était pas du tout une passion à l'époque. C'était vraiment juste une prise de conscience que j'allais devoir pouvoir payer un loyer un jour. Et me nourrir, et donc il allait falloir apprendre un métier. Donc je suis arrivé au lycée hôtelier sans aucune envie particulière, mais ça s'est fait, et puis la passion s'est développée au fur et à mesure des années. Je me suis rendu compte finalement que ces années que j'ai vécues aux États-Unis m'ont quand même formé et donné cette mentalité. Où on dit souvent aux États-Unis qu'il faut être le meilleur dans ce qu'on fait, peu importe ce qu'on fait, il faut essayer d'être le meilleur. Et donc finalement, je me suis rendu compte que j'ai un petit peu utilisé cette philosophie pour me construire en tant que cuisinier. Et puis à force d'enchaîner les expériences, la passion est arrivée petit à petit. Je pense que aujourd'hui. Les jeunes ont envie de beaucoup de choses et on change très rapidement d'idée, plus que ce qu'on aurait pu à l'époque. Je fais peut-être partie d'une ancienne génération qui se posait pas trop ce genre de questions, qui se disait bah, ça c'est mon métier et je vais devoir l'assumer jusqu'à la retraite. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai décidé de faire à fond. Jusqu'à mon arrivée à Paris il y a un petit peu plus de 8 ans où là j'avais enchaîné quelques belles expériences, une place de sous-chef dans un restaurant étoilé dans le Gard, donc à l'âge de 21 ans. C'était un poste un petit peu précoce, mais le recrutement n'était pas évident dans le sud, donc ça m'a propulsé à ce poste de sous-chef. J'ai ensuite voulu venir à Paris pour...
C'était dans quelle maison ?
Donc c'était le Vieux Castillon aux côtés du chef Christophe Ducrot, qui aujourd'hui a toujours une étoile dans son restaurant à Uzès. Voilà.
Magnifique ville d'André Gide, Uzès, oui. Où on mange très bien aussi.
Exactement.
Et alors ensuite ?
Et donc ensuite Paris. Paris, le niveau en cuisine est très élevé à Paris, donc... Donc c'est bien, ça nous oblige de tout donner. J'ai commencé dans un restaurant en tant que commis de cuisine. Donc voilà, je suis passé de sous-chef à commis. Je pense que ça aussi c'est important dans ce métier, c'est d'être humble, de savoir se remettre en question et parfois de savoir reprendre à zéro pour mieux avancer. Donc voilà, j'ai passé... 2 ans à Paris dans le restaurant Itinéraire dans le 5e avec le chef Sylvain Sandra. Voilà, ensuite j'ai voulu me faire une expérience de palace, de grande maison comme on dit. Et là du coup je me suis retrouvé chez Thierry Marx dans le restaurant sur mesure doublement étoilé. Une très belle expérience aussi. J'ai passé encore 2 ans. Dans ce restaurant, avant de prendre une première place de chef de cuisine à l'âge de 27 ans. C'était des amis d'amis qui ouvraient un restaurant qui m'ont proposé cette place. J'ai voulu relever le défi et il se trouve que c'était pas une si bonne expérience que ça. Les patrons n'étaient pas du métier, j'ai voulu vite passer à autre chose et gommer cette petite partie de mon parcours. Donc je suis allé au 6 Paul Bert, pas très loin d'ici. Pourquoi ? Parce que j'étais très attiré par le terme néo-bistrot. Voilà, j'avais surtout fait mes stages et tous mes emplois dans des restaurants étoilés. Je voulais voir autre chose. Voilà, donc... Encore 2 ans passés dans cette maison, jusqu'au jour où j'ai appris qu'un chef que j'admirais énormément à Paris était à la recherche d'un sous-chef. Et donc, je suis vite allé chez lui pour lui donner mon CV.
Et comment s'appelait ce chef ?
Ce chef s'appelle Atsushi Tanaka, un chef japonais dans le 5e arrondissement. C'était Pierre Gagnère qui l'avait cité dans un article. il y a peut-être 5-6 ans, où il disait que Atsushi Tanaka était le Pablo Picasso de la gastronomie, pour lui. Cette phrase m'a vachement attiré, moi qui étais aussi grand fan de M. Pierre Gagnaire, qui a reçu mon CV de nombreuses fois, mais qui ne m'avait jamais recontacté. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas aller chez Atsushi. Voilà, encore deux belles années passées chez lui. On a connu le Covid et le premier confinement ensemble, qui était extrêmement particulier pour les restaurateurs. Et puis, j'ai été contacté par la production de M6 pour participer à Top Chef. J'ai décidé de me lancer dans l'aventure.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
C'est passionnant comme parcours. Vraiment, merci Thomas. Et je lis sur le site un passage d'un article du Figaroscope. Saveur tonique chez Chocho. Le parcours est tonique, les saveurs sont toniques. Hors clichés, disent-ils, loin des étiquettes, bien dans le courant de l'époque, mais en mode alternatif. Ça éveille, ça réveille. J'aime beaucoup. Au fond, ça éveille les papilles. Et dans ce que vous nous dites, vous avez toujours eu le souci, si je vous ai bien écouté, de vous renouveler. Et je crois que on ne peut pas imaginer un chef sans cette qualité de la curiosité, je dirais, c'est-à-dire la créativité dont parlait Christine, un renouvellement incessant, une volonté d'être finalement toujours exigeant dans un art de vivre.
Tout à fait, tout à fait. Je dirais même un envie toujours d'être différent, de ne pas ressembler aux autres, de ne pas rentrer dans les cases, et ça je pense depuis mon enfance, donc cuisine ou pas, je pense que c'est quelque chose qui résonne en moi et qui me donne envie d'être le chef que je suis aujourd'hui.
Alors il y a quelque chose à la carte qui m'attire beaucoup, Christine. Poireaux braisés, mousseline fumée, graines de moutarde en pickles, citron confit.
Je l'ai goûté, c'est fabuleux.
Merci.
Bien. Alors, moi, j'aurais bien aimé peut-être qu'on revienne sur l'origine de vos inspirations, parce que vous proposez une cuisine aussi très cosmopolite à la carte. Il y a plusieurs pays qui sont convoqués, très colorés aussi quand on regarde vos plats, parce qu'il faut prendre le temps de regarder vos plats avant de les déguster, c'est une évidence. Et cette origine, j'aimerais bien qu'on l'ancre dans ce qu'ont dit les enfants lorsqu'on les a écoutés. Noam parlait de la naissance de son goût pour la cuisine pendant le confinement avec son portable et sa maman. Anatole parlait de la place qu'il avait prise à sa sœur qui faisait des gâteaux. Et moi, j'aurais voulu qu'on vous écoute peut-être sur une inspiration féminine de votre cuisine, parce qu'il y a beaucoup de chefs hommes, bien sûr, on le sait, mais peut-être qu'il y a une inspiration féminine. Alors, pour ça, je crois savoir que vous êtes amateur de musique, de hip-hop. Vous avez même écrit de la poésie ou vous osiez écrire un petit peu d'écriture slam lorsque vous étiez plus jeune.
Ouais, tout à fait. Même au lycée, je faisais partie d'un groupe de rap à Perpignan où on a sorti une mixtape d'une quinzaine de morceaux. Alors, je ne donnerai pas forcément le lien parce que ça remonte à très longtemps. Mais très clairement, je pense que c'est grâce à ces années que j'ai passé à essayer de faire de la musique qui m'a aidé à trouver mon cheminement créatif en cuisine. J'ai voulu rejeter la cuisine pendant les premières années. Pour moi, c'était pas une passion, c'était seulement mon métier. Donc, effectivement, les premières années, j'étais vachement dans la musique et j'avais un rituel, comme beaucoup de gens créatifs. Et c'était tard le soir, seul dans ma bulle. J'ai maintenu cette même organisation aujourd'hui sur des créations de plats. Donc, tout ça est lié forcément.
Très intéressant, ouais. Oui, merci. C'est la cuisine vraiment comme un langage et comme une poésie. Le poète Antoine Aymaz, dans Cuisine, disait « Aucune recette en poésie, rien que de l'expérience et du faire ». On écoute un autre poète, c'est Tupac. On écoute Dear Mama, s'il vous plaît.
When I was pregnant in jail, I thought I was going to have a baby and the baby would never be with me, but I was acquitted a month and 3 days before Tupac was born. I was real happy because I had a son.
When I was young, me and my mama had beef, 17 years old, kicked out on the streets. Though back at the time, I never thought I'd see a face. Ain't a woman alive that could take my mama's place. Suspended from school, I'm scared to go home. I was a fool with the big boys breaking all the rules. Shed tears with my baby sister. Over the years we was poor than other little kids. And even though we had different daddies, the same drama when things went wrong, we blame mama. I reminisce on the stress I caused. It was hell, hugging on my mama from a jail cell. And who thinking elementary? Hey, I see the penitentiary one day. Running from the police, that's right. Mama catch me, put a whooping to my backside. And even as a crack fiend, mama, you always was a black queen, mama. I finally understand for a woman it ain't easy trying to raise a man. You always was committed, a poor single mother on welfare. Tell me how you did it, there's no way I can pay you back. But the plan is to show you that I understand. You all appreciate it.
Don't you know we love you, sweet
dear mama.
No one above
you,
sweet lady. Don't you know we love you?
Now ain't nobody tell us it was fair. No love for my daddy, cause the coward wasn't there. He passed away and I didn't cry, cause my anger wouldn't let me feel for a stranger. They say I'm wrong and I'm heartless.
Alors, vos sources d'inspiration américaines et catalanes, Thomas, on vous écoute.
Oui, bon, bah, alors il y en a beaucoup. Je pense que c'est toujours dans une quête de vouloir continuer à me trouver, de trouver ma cuisine, de créer quelque chose qui me ressemble. On a cette prétention au restaurant Chocho de dire qu'on fait une cuisine d'auteur, et c'est-à-dire que j'essaye vraiment de véhiculer de l'émotion à travers mon vécu et les assiettes. Donc effectivement, toutes les étapes de ma vie sont importantes pour créer tout ça, que ça soit mon enfance aux États-Unis ou tous les étés et le temps passé avec ma famille en Catalogne du Nord, donc Perpignan. Ma grand-mère qui est une très grande cuisinière, qui cuisine un petit peu moins aujourd'hui, mais j'en garde des très très bons souvenirs.
Donnez-nous les meilleurs plats de votre grand-mère, s'il vous plaît.
Alors, les meilleurs plats de ma grand-mère, ils se valent tous, mais on va dire que son gazpacho est quelque chose qui... c'était toujours le premier plat qu'elle me préparait en arrivant en France. Le premier jour, dès que on descendait de l'avion, et qu'on arrivait chez les grands-parents, on savait que ce soir-là, on allait manger son gazpacho, et ça, pour moi, c'était toujours un pur bonheur. Voilà, beaucoup de boutifards et de plats traditionnels catalans qui ont marqué mon enfance. Et puis pour moi, aujourd'hui, ce qui est extrêmement important en cuisine, ce qui prend beaucoup de place dans mon métier, c'est le sourcing des produits, le respect de l'environnement, et le bon choix des ingrédients et l'amour pour les bons produits. Je l'ai eu dans le sud de la France, non pas aux États-Unis où New York est une ville magique, mais voilà, le local n'est pas forcément adapté à cette ville. Donc c'est vraiment à Perpignan que j'ai vraiment pris goût de la tradition, moi aussi étant un jeune chef qui essaye d'innover. Pour moi, c'est très important de quand même ne pas oublier la tradition et
la cuisine
et
traditionnelle,
la cuisine classique, et qui est très important.
C'est très intéressant ce que vous dites, Thomas, parce que vous alliez à la fois l'art du goût, je dirais, comme l'un des sens privilégiés par la cuisine et en même temps l'art du voir par les couleurs, dont Christine a rappelé l'importance au chouchou, cet art de, d'associer des couleurs dans un plat, et l'écologie. Et l'écologie, on peut dire que voilà, c'est ce respect de l'environnement, les produits locaux, c'est aussi une écosophie, c'est-à-dire un art de vivre qui rejoint un peu ce que Corinne Peluchon dit dans son livre « Nourriture ». Quand elle parle de vivre, elle dit « vivre, c'est vivre de ». Et la transitivité du verbe, dit Corinne Peluchon, ne signifie pas seulement que notre existence est inséparable de la matérialité, elle désigne aussi le caractère originaire du sentir, qui est notre vie dans et avec les choses. Ces deux prépositions, notre vie dans et avec les choses, vous le dites beaucoup mieux que moi, par expérience, Thomas, c'est l'expérience de ce rapport au monde que vous avez, qui est à la fois un rapport du goût et du toucher. Je pense que quand on est cuisinier, on touche beaucoup. Et cette façon de toucher les aliments, de sentir, c'est aussi une manière de les associer. Et pour avoir eu un père cuisinier moi-même...
Moi aussi.
Voilà, qui faisait des plats traditionnels italiens. Je me souviens très bien de mon père faisant les gnocchis. J'étais toute petite et j'étais complètement impressionnée de le voir devant cette table avec sa fourchette et ses gnocchis. Et j'avais l'impression d'un magicien. Quand il mettait le sel aussi dans la casserole, il y avait comme un rapport pour moi entre mon père et Merlin l'Enchanteur. Et voilà, et je voulais vous le dire ça. Et puis, en venant à l'émission ce matin, je n'ai pas pu ne pas penser à cette tenture de la Dame à la Licorne au Musée National du Moyen-Âge, à Cluny, où dans cette tapisserie, la Dame prend une dragée dans une coupole. Et il y a un chien qui la regarde de ses yeux ronds. Mais elle ne s'intéresse pas au chien. Elle s'intéresse à un perroquet à qui elle va donner la dragée. Très intéressant pour dire qu'en fait, manger, c'est pas seulement un acte naturel, pour répondre à la question de Christine, c'est profondément culturel, je crois. Il y a cette façon de dire, c'est pas fait pour les chiens, quoi. C'est donc une manière de cultiver l'assiette, le goût. Et le goût, ça s'éduque. On pense à Hume, bien sûr. Et si le goût s'éduque, la malbouffe dont vous parliez, dont vous avez été victime à New York, comme nous pouvons l'être, hein, eh bien, il est important de la corriger, au fond, parce que apprendre à bien se nourrir, c'est aussi apprendre à être avec les autres et pas seul devant son ordinateur ou sa télé, et son plateau de pop-corn ou de chips, mais retrouver l'art d'être à une table avec les autres. C'est très christique pour moi. Le Christ n'arrête pas de manger dans les évangiles.
Oui, et on pourrait témoigner effectivement de ce que c'est que d'entrer dans le milieu du chouchou, hein, le milieu comme vraiment un milieu naturel. Moi, je voudrais décrire cette expérience aux auditeurs, hein, moi qui ne vais pas beaucoup au restaurant, vraiment la joie d'entrer dans ce restaurant, de voir une grande tablée au milieu, donc qui ressemble à une grande table de banquet, de voir au fond les cuisines ouvertes où on vous voit tous travailler, où on entend, hein, la musique de la cuisine, les gestes du cuisinier, saccadé, rapide. On n'est pas seul quand on entend la musique de la cuisine. Voilà, c'est... et puis, ce sont des petites tables pour 4, pour 2, avec des chaises en osier, des petites banquettes, toi et moi. C'est assez intime. Sur les murs, de magnifiques faïences qui évoquent la Catalogne, avec des sèches, avec des poissons, avec des femmes à peine suggérées, nues, qu'on retrouve souvent dans les assiettes, comme on retrouvait autrefois, ou encore d'ailleurs, dans les verres de saké vides, les femmes nues. En tout cas, c'est sûr que votre restaurant, c'est la célébration complète de la vie, de la fécondité de la vie, de l'érotisme aussi, puisque on voit bien qu'effectivement, bien manger, c'est bien parler, s'apprendre à donner à manger à l'autre, comme le disait Derrida, c'est apprendre aussi à lui parler, apprendre à le manger, apprendre à se l'incorporer. Et ça exige toute une délicatesse, un raffinement. Et il porte bien son nom, votre restaurant, hein. Chocho, c'est chaud, quoi. Effectivement,
et en plus, chaud. Je dirais, c'est rue du Paradis.
Et c'est rue du Paradis.
Au 54.
Ouais.
Et c'est assez incroyable. Hein.
Oui.
Aligre FM 93.1.
Et j'aurais bien aimé que vous reveniez peut-être sur le titre du restaurant. Pourquoi vous avez choisi ce nom? Alors moi, ça m'évoque l'étymologie de cuisine, coquerer, cuire, chauffer. Donc effectivement, cuisiner, c'est transformer avant tout des produits naturels. On ne les livre pas comme ça, brut de décoffrage. Et quoi encore?
Et alors, pour revenir sur l'origine de Chocho, qui est assez drôle, hein, c'était lors d'une discussion avec mon associé au moment de préparer le projet de ce restaurant. À un moment donné, on avait le concept, mais il fallait le nom. Donc mon associé m'a suggéré Chocho et il m'a demandé ce que j'en pensais. Alors, pour la petite histoire, lui, il était parti en voyage avec toute sa famille. Il y a 5-6 ans, où ils avaient mis tous les restaurants en gérance. Ils sont partis en famille faire le tour du monde pendant un an. Et c'est en Australie qu'ils ont mangé dans un restaurant qui s'appelait Chocho-san. Et ils en avaient gardé un souvenir incroyable. Ce nom résonnait dans la tête de mon associé Boris. Et il me dit, qu'est-ce que tu en penses de Chocho? Alors je lui dis, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Boris Chocho? Et il m'a répondu, bah rien. Et c'est à ce moment-là où je lui ai dit, ok, j'adore. Simplement, voilà, je trouve qu'aujourd'hui, on est arrivé à un certain niveau de cuisine qui est devenu par moments presque trop intellectuel. Parfois, quand on essaye de trop cuisiner avec le cerveau, on oublie de cuisiner un petit peu avec le cœur. Et ça, pour moi, c'est important de lier les deux. Je trouve que suite à cette nouvelle cuisine, il y a eu une multitude de restaurants avec des noms que moi, j'estime être extrêmement prétentieux. Et donc, je voulais quelque chose de simple. Chocho m'a aussi fait penser au mouvement Dada, dans lequel je suis particulièrement fan. Pour moi, c'est... voilà, Dada, ça ne voulait... rien dire, mais derrière ce mouvement, il y avait de grands professionnels qui savaient ce qu'ils faisaient. Et pour moi, Chocho, c'est un petit peu cet esprit. Pour moi, c'est un restaurant Dada.
Ouais, et puis Dada, c'est tout de suite l'enfance. Et je me dis, vous énoncez là, Thomas, que la cuisine, c'est un langage du cœur, c'est un langage de l'enfance. Ça me fait penser à Ratatouille, hein, le film, où ce critique de restaurant retrouve dans la ratatouille des souvenirs d'enfance, quoi. Et je trouve ça assez génial. Alors c'est vrai qu'avec les mots des philosophes, on peut passer pour prétentieux, mais il y a quelque chose à en tirer de façon très simple. Et en discutant cette semaine avec Christine, je lui faisais remarquer que Lévinas avait beaucoup parlé de l'aliment, de la nourriture, et dans Totalité et Infini, il dit que le monde, on s'en nourrit. Le monde que je constitue, il me nourrit et en même temps, il me baigne. Il est l'aliment, dit Lévinas, et le milieu. Et alors c'est très intéressant parce que ce milieu-là, c'est un milieu total pour nous. C'est le cœur, c'est l'âme, c'est l'esprit, mais c'est très corporel la cuisine. Hein. On parle des sens, mais des sens, comme vous le disiez très bien, qui sont toujours transformés. Donc c'est de la nature et c'est de la culture, mais c'est jamais soit l'un soit l'autre. au fond, tout ce qui est naturel pour l'homme, c'est culturel, parce que c'est transformé. Et quand ça passe par le cœur, c'est une façon déjà d'interpréter le monde, quoi.
Oui, et en vous écoutant, Isabelle, Thomas, je repense à ma soirée chocho de lundi, et je revois les ustensiles du repas. Alors, les ustensiles du repas, pour les hôtes, l'hôte que j'étais, bah, c'était une fourchette, un couteau, mais pas n'importe quel couteau, je vais vous dire, chers auditeurs. Un couteau qui m'a fait beaucoup de bien, et une cuillère, et puis après une vaisselle très belle aussi. Je tiens à le dire parce que c'est important aussi, les contenants, le milieu dont tu parlais, Isabelle. Ces contenants qui disent aussi un contenu, ça peut être des soucoupes qui nous évoquent des galets presque de grès ou des rivières, des Pyrénées, qui ont été creusées et qui sont ouverts justement à la beauté des mets qui nous sont présentés, et surtout l'ustensile parfait du repas, simple par excellence, l'opinel. L'opinel à virole, le plus simple, le plus classique, celui qui vous attend et que l'on trouve chez tous les vieillards, chez tous les grands-pères de France et de Navarre, dans la poche, qu'ils ne prêtent pas, qu'ils sortent pour le repas, qu'ils lavent eux-mêmes. Et c'est vrai qu'il y a aussi un soin du détail chez vous. Ce soin du détail, effectivement, du couvert, de la mise à table, de la mise de la table, qui accueille très simplement et très joyeusement les hôtes. Alors ça, c'est de votre fait, Thomas, ou qui vous conseille, ou est-ce que cela dit aussi quelque chose, peut-être d'une prédilection que vous pouvez avoir pour certains ustensiles, et vous nous direz quel serait l'ustensile que vous apporteriez sur une île déserte si vous étiez reclus pour cuisiner. Qu'est-ce que vous n'oublieriez pas?
Alors, je pense que, bah, bien évidemment, ça serait un couteau, et du coup, pourquoi pas un opinel. C'est vrai que pour moi, l'art de la table est très important. J'estime que le contenant est tout aussi important que le contenu. L'un va avec l'autre. J'ai la chance d'avoir rencontré des artisans passionnés, des céramistes avec qui... On a tissé des liens et avec qui on continue à travailler ensemble pour créer des pièces.
Vous pourriez nous dire leur nom ?
Pour le restaurant, bien sûr. Donc on a Lou Thomas qui a démarré à Montreuil, qui aujourd'hui a son atelier à Marseille, mais avec qui on continue à collaborer ensemble. On a aussi Nos Céramiques qui est à Bagnolet, qui fait des choses exceptionnelles, et puis surtout une chère amie d'enfance, Carla Soutra, c'est son nom d'artiste. C'est donc elle qui avait fait les faïences sur
oui,
le mur.
Voilà,
son nom d'artiste fait comprendre aussi ce côté un petit peu érotique qu'on retrouve chez Chocho, c'est de vouloir célébrer la vie, d'être des bons vivants dans tous les sens du terme. Et donc Carla Soutra qui crée ses assiettes en Catalogne du Sud, juste au-dessus de Barcelone, voilà, avec qui je travaille depuis l'ouverture.
Merci beaucoup.
C'est passionnant, hein, merci beaucoup. Vraiment, quand on vous écoute, on peut dire que se nourrir, bien se nourrir, hein, c'est l'amour de la vie. Et l'amour de la vie, le bon vivant dont vous parlez, nous rattache à quelque chose qui nous constitue tous à la naissance, où nous sommes nourrissons, nous nourrissons du lait de la mer. Nous devenons, au fond, ce que nous mangeons, d'une certaine manière. C'est-à-dire aussi la manière dont nous mangeons. Pas seulement l'art de se tenir à table, bien sûr, mais ça va beaucoup plus loin que ça. L'environnement, le milieu, les gens avec qui on parle, si on mange tout seul, si on mange avec les autres. Je trouve que c'est très beau de revenir sur cette idée de générosité avec vous. Parce que la générosité, c'est tout ce qui pourrait être une façon de retrouver son corps aujourd'hui où nous l'avons perdu, dans un culte du corps justement, un corps qui est devenu extérieur à nous puisque c'est un corps presque idolâtré qu'on nous présente à travers cette phobie de ne pas grossir, cette manière de construire un corps parfait, ou même le transhumanisme qui augmente le corps pour qu'il ne soit plus fragile, malade ou vieillissant. Et cette question de la nourriture nous rappelle au corps et nous dit, au fond, cette corporéité que vous êtes, plus que vous ne l'avez, elle détermine quelque chose de l'ordre d'une jouissance, mais intelligente, je dirais, parce que c'est pas seulement une façon de dire carpe diem, voilà, je bouffe, mais au contraire, carpe diem, communie au monde. Et cette idée de communion, c'est aussi une idée de repas, de partage, de générosité. Voilà, le copain est celui qui partage le pain. Alors, j'ai vu que c'était aussi une chaîne de pain, pas loin de chez moi, des pains sans gluten, des pains bio, bref. Mais c'est très intéressant parce que ce partage, il ne va jamais sans le plaisir voilà, de ressentir le goût. Et on n'est jamais autant marqué comme votre collègue, j'ai oublié son nom, pardon, en Australie, qui a un souvenir génial de ce restaurant, Boris, parce que voilà, je pense que c'est l'ambiance aussi qui l'a marqué. Et c'est le fait des gens qui l'a rencontré là-bas. C'est tout un art dont parlait Christine, le décor, la céramique, l'assiette, les sons. C'est les correspondances de Baudelaire.
Et effectivement, comme le plaisir vient comme la fleur de la jeunesse au vieillard, n'est-ce pas ? Comme le disait Aristote, j'aimerais bien qu'on termine l'émission sur... ce qui signe le bonheur d'un repas partagé au chaud chaud, c'est le plat signature. Alors, vous avez parlé de cuisine d'auteur. Ouais. Et c'est vrai que vous avez un plat signature. C'est le fameux plat associé, qui, je le dis aux auditeurs, n'est pas un plat hors de prix, parce qu'on peut, on peut prendre peur lorsqu'on entend parler de cuisine d'auteur, mais ce n'est pas ça du tout. Il dit aussi quelque chose d'une certaine cuisine. Vous avez évoqué le gazpacho de votre grand-mère. Bon, moi, je pense au pan con tomate et, qu'on déguste toujours quand on arrive en Catalogne, qui ouvre le repas. Et j'aimerais justement que vous nous parliez de ce plat signature extraordinaire qui renvoie à tellement d'expressions populaires, justement de gens qui aiment saucer dans le plat. Alors dans le sud on dit escarrer le plat, et qui signe notre humanité, qui est de savoir ensemble se priver d'ustensiles, d'un couteau et d'une fourchette, et de prendre à même un aliment, un légume ou du pain, l'aliment le plus simple, notre capacité à être ensemble et à faire communion. Alors ?
Alors, ben, écoutez, ce plat il est né il y a quelques années en sortant de chez Thierry Marx pendant ma première place de chef de cuisine dans ce petit restaurant qui s'appelait Grive. Et donc j'ai commencé à me poser la question de me dire quel était le meilleur moment d'un repas. En fait, je voulais essayer de prendre un instant et le transformer en quelque chose de beaucoup plus concret. Et puis j'en suis venu à me dire que le meilleur moment d'un repas, c'était justement ces dimanches en famille quand on a presque plus faim, il faut presque desserrer un petit peu la ceinture, mais par pure gourmandise on continue à associer un petit peu cette assiette avec le jus du poulet rôti et la vinaigrette de la salade qui restait sur le bord. On a tous ces mélanges de salé, sucré, acide, un pur plaisir. Voilà, tout était parti de ce moment précis. Et puis y a quelque chose qui aussi pour moi était important. Aux États-Unis, on a une expression, on dit « to break the bread », c'est-à-dire de partager un morceau de pain avec son voisin. Je trouve que ce plat m'aide à rendre la cuisine beaucoup plus simple. J'aime bien... demander aux gens de toucher ce qu'ils vont manger. Je pense qu'on a, on a un rapport à la nourriture aujourd'hui, comme vous disiez tout à l'heure, qui peut être particulier pour certaines personnes. C'est, on prend du bout de la fourchette, on mange pour se nourrir, on cherche surtout pas à grossir ou à prendre plaisir. Et je trouve que c'est important d'avoir une certaine sensualité, de partager ce pain avec son ami, son amant, ses collègues, et vraiment d'aller saucer directement cette assiette. Et puis on découvre aussi le travail de Carla Sutra une fois le plat terminé.
Ouais, c'est l'art de devenir gourmet.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Oui, alors, est-ce que vous pourriez nous dire, alors, je me souviens très bien de ce plat signature qui va changer régulièrement. Donc là, je ne saurais même pas dire quelles étaient les saveurs. C'était bien des panés qui permettaient de tremper, mais les différentes sauces, effectivement, il y a plusieurs couleurs, plusieurs saveurs, et vous les faites varier en fonction de la saison, en fonction des produits, en fonction de l'inspiration. Qu'est-ce qui vous permet finalement de faire ces sauces extravagantes?
Ces sauces, ben déjà les sauces pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est vraiment
un, ça bon fait partie, cuisinier est ça, un bon saucier,
ça fait partie
mon
de
père.
La cuisine française, hein, on ne peut pas s'en passer, et c'est ce qui fait que la cuisine française est aussi bonne, hein. C'est la gourmandise, et la sauce pour moi c'est la générosité. Pour moi, on ne peut pas être un grand cuisinier si on n'est pas généreux. C'est une assiette qui varie selon les saisons. Les saisons nous obligent bien évidemment parfois à le changer, mais souvent c'est plus des envies personnelles, des caprices de chef qui dit que ça fait trop longtemps que c'est à la carte, donc il faut qu'on change. Mais finalement, ce plat est toujours constitué de 4 éléments, c'est-à-dire une purée, une sauce, un condiment et très souvent une huile qui vient perler, qui vient se mélanger, qui crée ce lien. Ce plat a toujours été servi depuis l'ouverture avec un pain fait maison. J'ai la chance d'être accompagné par un super chef adjoint aussi qui est très fort dans le pain. Donc au bout d'un moment, on a voulu se mettre le défi de changer le pain à chaque nouveau plat saucé pour qu'il soit en raccord vraiment avec l'idée. Aujourd'hui, on fait quelque chose, on va dire, un peu marseillais. Voilà, on est sur une purée de fenouil au pastis, une bouillabaisse, de la rouille, une huile de persil. Et donc là, pour le coup, c'était la première fois qu'on a décidé de faire des petites frites de panisse frites. Donc, on a arrêté le pain, on a rajouté autre chose. Et donc, ça prouve que c'est un plat qui continue à évoluer. On en est aujourd'hui à notre 9e version depuis bientôt 2 ans.
Mais c'est génial, tous ces noms, toutes ces distinctions de goût. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas tellement diviser gourmand et gourmet. L'art d'être gourmet dont je parlais tout à l'heure, c'est une façon aussi de discerner les goûts. La rouille dont vous parliez, les différentes sauces, tout ça. De savoir aussi ce qui nous plaît. Et je crois que c'est intéressant parce que pour vous, le gazpacho, ça a un souvenir d'enfance. Ça vous plaît, c'est rattaché à votre grand-mère. Je dirais que c'est une façon aussi de dire, voilà, la culture, c'est comme la cuisine, c'est une façon aussi de trier. Et trier, c'est pouvoir se dire, bon, là, on fait ça, mais on ne fait plus ça, pourquoi on le fait? Donc, c'est pas que de l'intellect, mais c'est une façon de dire, voilà, qu'est-ce qui va toucher, qu'est-ce qui va émouvoir, qu'est-ce qui va plaire? Et donc, c'est une manière de faire se rejoindre en nous l'esprit et le cœur. Et c'est jamais séparé, quoi. Et moi, j'aime beaucoup parce que cette façon de penser notre corps, c'est justement arrêter d'en faire quelque chose de séparé de l'âme. Et comme on pourrait dire d'une maison qu'elle a une âme, on pourrait dire d'une cuisine qu'elle a une âme et d'un chef qu'il a une âme.
Oui, et certainement, votre âme est très belle et elle nous comble,
merci, Thomas.
Merci, et il va être bientôt l'heure de nous quitter. Et pour vous remercier, Thomas, pour vous inviter, chers auditeurs, à aller découvrir le Chocho, à aller découvrir ses serveurs, ses serveuses, sa brigade de cuisiniers sympathiques. Entrer dans ce milieu qui ressemble à la fois effectivement à un restaurant d'une grande métropole, mais aussi à une taverne catalane avec ses faïences vertes en dessous du lieu où l'on cuisine. Donc c'est vraiment un milieu hybride où on est comme un poisson dans l'eau. Et pour revenir à ce que vous avez dit, vraiment à l'entrée de l'émission qui, pour ma part, m'a beaucoup touchée, cette espèce d'éloge aussi de l'artisanat que vous avez mentionné en rappelant que vous auriez pu être charpentier, vous auriez pu être quelqu'un d'autre qui travaille simplement avec ses mains, mais que c'est la cuisine qui vous a fait, qui a fait celui que vous
êtes.
Alors voilà, pour vous remercier de cette parole qui vraiment fait écho, je vais vous dire, chers auditeurs, l'ode à chacun d'Henri Pichette, qui est vraiment un hymne, enfin une partie de l'ode à chacun, jusqu'au moment où il célèbre précisément les cuisiniers. Et on se quittera sur cette ode à chacun et sur l'écoute en même temps des hors-d'œuvre de Rossini. C'est l'anchois qu'on va écouter pendant que je vous dis cette ode à chacun d'Henri Pichette. Je dirais le meunier, le forain, le tourneur, le mitron, le clown blanc, l'échevelé glaneur, la foi du charbonnier au grand jour témoignée, l'horticulteur fleuri, la coiffeuse hors peignée, la trame de la vie au doigt du tissutier, le ruban gris de lune à l'avant du routier, le peintre qui voit clair au balcon de ses toiles, l'infini matelot, le pilote aux étoiles, celui qui fait la pluie avec un arrosoir, et l'autre les chaleurs répondre à l'attisoire. Le tombelier d'eau rond sous les averses drues, le boueux suroral, le balayeur des rues, le cordonnier qui tient l'usure des chemins, le bateleur habile à courir sur les mains, l'ongle noir du typeau qui sauve de la faute, l'éclusier qui caresse un projet d'argonaute, le vitrier aux cris de cristal dans les vents, l'empailleur d'animaux qui leur veut l'air vivant, l'apiculteur masqué s'escrimant aux abeilles, la cueilleuse de cerises pendant d'oreilles, le fermier en haut lieu sur les foins engrangés, la bonne qui babille au poupard frais langer, la nourrice un sein noue pour la bouchette pure, la sevreuse d'agneau qui sévit d'un murmure, le mouvement du gars talochant le goudron, le fer qui se métamorphose au forgeron, la dentelière agile et l'exacte appliqueuse, l'adoucisseuse de miroir et la piqueuse, l'enlumineur, le chamoiseur au doux manier, brossier, cordier, cloutier, crinier, parcheminier, tous manuels. Armoiseuse paisible et belle, comme la soie, et vous, treilleuse à l'escabelle. Le laitier des matins au seuil de la cité, le fruitier qui commerce avec maturité. Mouille-bouche, sucrin, reine Claude, calville, le ramoneur oyant, alpiniste des villes, la repasseuse à la pâte mouille, le franc teinturier qui garance et use de safran, épicière fleurant bon les fins aromates, peseuse de poissons, les ouïes incarnates, écarisseur et chevillard rouge du sang, des bêtes, la laveuse aux mains roses rinçant, la marchande des quatre saisons qui rallie, la cliente hésitante au cri de Majoli, le fromager de Sassenage ou Livaro, monsieur le volailleux qui porte le sarrau, le charcutier qui rend gloire dans ses vitrines, au vol au vent coiffé, quiches et ballottines, les graisses bouillonnant au gré du friturier, le blond foisonnement chez le vermicellier, le pâtissier élu pour la réjouissance, le sommelier, cet abstracteur de quintessence, et le bougnat, bois et charbon, vins et liqueurs, le garçon qui remet la tournée au trinqueur, le maître que, ses marmitons, ses tournebroches. C'était une partie de l'ode à chacun pour Thomas Chisolm d'Henri Pichette. Thomas, nous vous remercions beaucoup d'être venu pour Radio Aligre aujourd'hui.
Merci beaucoup. Plaisir. Merci vraiment, Thomas.
Et nous vous souhaitons un très beau mois de novembre, chers auditeurs, consacré à la découverte de tous les artisans du 11e arrondissement, de tous les cuisiniers, tous les pâtissiers, tous les boulangers qui s'appliquent à nous réjouir de leurs mains. Merci et à très bientôt.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.